Voilà, il y a quelques années, j'ai lancé le défi brosse à dents. Hein, et j'avais une page Facebook avec le défi brosse à dents, ou en anglais, the toothbrush challenge. Hein, the toothbrush challenge. Le défi brosse à dents. Et donc, ce qu'il fallait faire pour entrer dans ce groupe privilégié, il fallait, le matin, quand on sort du lit, on brosse les dents devant la glace, on devait brosser ses dents, et à un moment donné, à un moment clé, on devait se regarder dans la glace, et on devait dire, je suis une créature merveilleuse, indispensable à l'humanité. Hein? Et vraiment de le dire avec conviction, chaque matin. Et je ne sais pas si vous avez fait ça depuis 5-6 ans, hein, tous les matins. Je suis une créature merveilleuse. Et ça, c'est tiré du psaume 139. Hein, psaume 139, c'est le roi David qui dit « Je suis une créature merveilleuse ». Hein, et donc, c'est biblique. Et après, indispensable à l'humanité, bon, c'était Michel Coist, un prêtre catholique, qui a écrit un livre de prière très poétique. Et j'ai beaucoup aimé Michel Coist parce que c'est un homme réel, abordable. Bon, il est mort maintenant, mais super. Si vous avez l'opportunité de lire son livre Prière, c'est magnifique. Hein. Et donc voilà. Et donc j'étais tout content de dire ça. Je suis une créature merveilleuse, indispensable à l'humanité. Et j'ai dit ça à ma femme ce matin, hein, au petit-déj. J'ai dit, ma chérie, je suis une créature merveilleuse. Avec mon porridge, là, j'étais là. Indispensable à ma femme, j'ai dit. Indispensable. Pas juste à l'humanité. Indispensable à ma femme. Et après, j'ai dit, mais quand même, Robert, est-ce que tu es dans la bonne théologie, quand même, là? Tu es positif comme ça, souriant. Quand même. Et après, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, il y avait saint Augustin qui a parlé du péché originel de l'homme. Et après Calvin, il a mis un paquet après Saint-Augustin, parce que, comme un bon protestant, il a décidé avec un groupe d'hommes en Hollande, le synode de Dort, je pense, et il a dit, l'homme est, qu'est-ce qu'il a dit en anglais, c'est total depravity, une dépravité totale. Et donc j'ai dit, mince, et moi je suis une créature merveilleuse. Et eux, ils disent que j'ai une dépravité totale. Et donc, j'ai dit, mais pardonne-moi, Seigneur, pour toute cette joie que je porte dans mon cœur. Et après, j'ai dit, mais quand même, dans la Bible aussi, en Luc 18, on a cette histoire très bien connue, parce que c'est un peu, on fait ça à la messe aussi, où on a le pharisien qui est tout gonflé, qui dit, voilà, je suis meilleur que les autres. Il faut voir ça dans le contexte. Hein. Un grand orgueilleux, hein, c'est pas juste Monsieur Tout le Monde, mais un grand orgueilleux religieux, voilà, je suis meilleur, rempli d'orgueil. Et après, on a un pauvre collecteur d'impôts qui était méprisé à l'époque. Je pense que c'est toujours la même chose aujourd'hui. Et il dit, il est devant Dieu, c'est peut-être la première fois qui va à la messe. Bon, c'était avant la messe, hein, c'était dans les synagogues. Mais il est là et il dit, il frappe sa poitrine. Il dit, avec contrition, il frappe sa poitrine et il dit, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur, un pécheur. Alors là, ce matin, je dis, mais quand je brosse mes dents, je suis qui? Je suis une créature merveilleuse, indispensable à l'humanité. Oh, je suis pauvre pécheur, aie pitié de moi. Compliqué, hein? Compliqué. Peut-être on a eu les deux à la fois, quelquefois. Ouais, on a eu quelquefois. Mais il y a aussi, je pense, quand on prend l'Eucharistie, c'est nous, on a une liturgie chantée, hein, dans cette église. C'est magnifique. Et même dans l'église catholique, hein, c'était avant, c'était chanté. C'est uniquement avec le temps que ça a pris un peu d'âge. C'est toujours très beau, hein, quand on entend une messe chantée. Mais nous, on a une sorte de liturgie chantée qui varie selon celui qui fait les chants. Et donc, quand vous avez la liturgie de la messe, là, les gens, ils disent, Seigneur, ils ont un acte de contrition, ils disent, Seigneur, bon, ils ont enlevé la brosse à dents. Hein, Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ouais, je ne suis pas digne de te recevoir.
Mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Amen. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Quelle vérité passée depuis des milliers d'années. Passée depuis des milliers d'années. C'est vrai que je ne suis pas digne. Mais est-ce que je dois rester pas digne toute ma vie? Est-ce que je dois porter le poids de dire « Je suis un pauvre pécheur, matin, midi, soir, et pour l'éternité, que je dois quand même me rattraper. » tout le temps, pauvre chrétien que je suis, humble que je suis. Bon, je ne veux pas me moquer, hein, loin de ça. Mais quand même, il doit avoir quelque chose de positif dans la religion chrétienne. Ça doit marcher. Il doit avoir un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dis seulement la parole.
Je serai guéri.
Je serai guéri. Voilà. Et donc ce matin, je veux vous dire une parole. Et j'espère que vous serez guéri. Et j'espère que vous serez guéri. Parce que Jésus est la parole incarnée. Il est la parole incarnée. Et lui, sa parole était aussi une personnalité. Et je dirais, le Saint-Esprit, c'est aussi une parole. Et c'est sa personnalité et sainteté. Et quelquefois, écouter une parole, c'est plus que juste écouter mes paroles, j'espère. Hein. C'est d'être imbibé par la présence de la vérité, par la présence de quelque chose de bon. Et c'est mon but ce matin, c'est de vous encourager, de recevoir. Et quelquefois, la parole de Dieu n'est pas toujours instantanée comme le café. Ça prend du temps. Ça fait 35 ans que je m'imbibe vraiment avec la parole de Jésus. Et c'est pour ça que je brosse mes dents en disant, voilà, c'est plus, la plupart du temps, c'est pas en me flagellant, parce que je suis libéré, pardonné, aimé en Jésus-Christ. Je suis une créature merveilleuse. Indispensable au moins pour ma femme. Alléluia. Et donc là, c'est une bataille tout ça. Et donc, je vais vous lire quelques paroles d'écriture, de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et si vous avez vos Bibles, tant mieux. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave du tout. Parce qu'avec ma parole, vous allez entendre. Et donc, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, il y avait un prophète, Ésaïe. Et lui, il écrivait en Ésaïe 49, hein. C'est, il écrivait sur les rouleaux, hein. Il ne s'était pas numéroté à l'époque, hein. Ça c'est juste pour nous, 49. Et s'il y a peut-être un péché originel, tu vois, c'est quand même assez lourd là, c'est la portée, le péché originel. J'ai dit d'accord, mais ça pour moi c'est quelque chose d'assez figé. Ça parle de mon état. Je suis dans un état lourd de péché. Voilà, mon état. Et même on dit que les enfants sont nés avec, et donc il faut les baptiser pour l'enlever. Et je ne mets pas en question 2000 années de théologie. Hein. Qui suis-je pour faire ça? Mais je veux juste vous proposer un autre regard, qui peut-être existe en même temps, mais un autre regard sur la chose. Et au lieu de voir un état... Hein, je suis en état. Je veux que vous vous voyez comme quelqu'un qui est en marche dès votre naissance. Que vous n'êtes pas juste un être, mais vous êtes quelqu'un qui a une vocation, qui est en marche pour faire quelque chose avec votre vie. Et donc là, on commence. Il faut juste avoir ça derrière la tête. Et les premières paroles, dis seulement une parole. Et je serai guéri. Ésaïe 49. Et il y a une parole de Dieu. Bien sûr, c'est adressé à Israël dans un premier temps. Parce que tout est Israël dans l'Ancien Testament. Mais Israël, après, est devenu Christ. Toutes les promesses en Israël, et ils étaient incarnés, concentrés dans la seule personne de Jésus-Christ. Et après, Jésus-Christ a concentré, a partagé ses paroles de guérison dans son Église. Qui n'a pas rejeté Israël. Mais ensemble, maintenant, nous formons cette parole de vie, ce corps de Christ. Et donc, pour aujourd'hui, je veux que vous soyez pleinement libre pour recevoir cette parole. Il ne faut pas juste dire, oh, c'est Israël. Non, non, c'est pour vous ce matin. Et donc voilà, une parole fondamentale. D'accord ? S'il y a un péché originel, il y a aussi une parole fondamentale. Et cette parole, je partage avec vous. Ésaïe 49, et le premier verset, un peu la deuxième partie, il dit « L'Éternel ». Ça, c'est le grand nom, Yahweh, hein, que Dieu s'est révélé avec son nom, Yahweh. « L'Éternel m'a appelé dès le sein de ma mère. » Wow. Un appel fondamental. « Dès le sein de ma mère. » Il a fait mention de mon nom dès ma sortie des entrailles de ma mère. Donc chacun, hein, je sais que ma fille, une fois, quand elle était petite, elle m'a dit, mais papa, j'étais où avant de naître? C'est bonne question. Et là, qu'est-ce que je vais dire? J'ai dit, tu étais, je ne pense pas qu'elle a compris, j'ai dit, tu étais dans l'intention de Dieu, tu étais dans le projet de Dieu. Et je pense pas qu'elle a compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais juste, ça vous valorise, non? Peut-être qu'il y a un état de péché, mais il y a une promesse d'activité. Pesez les deux. Une promesse d'activité, une promesse de vocation. Et ça nous valorise. Ça nous valorise. Et moi, je dis de vivre plutôt dans votre projet que dans votre péché. Il faut vivre pour le projet et pas être figé dans le péché. Et le problème, c'est qu'on se fige trop dans nos problèmes. Oh, mais je suis mauvais. Au lieu juste d'aller vers l'autre avec une vocation. Et de dire, mais Seigneur, que ta grâce quand même couvre. Et vous allez voir, vous êtes guéri en allant. Dis seulement la parole et je serai guéri. Et donc après, voilà, je vais continuer. Parce que Dieu, il continue, verset 3. Il dit, et il m'a dit, tu es mon serviteur, en qui j'aurai ma parure. Et ma parure, c'est toute la beauté. C'est comme une épouse qui se pare. Et donc là, dès la naissance, Dieu veut nous parer pour illustrer quelque chose de beau pour le monde. Hein, il dit ça. Après, il continue. Hein, on va aller un peu plus loin. Verset 5. Maintenant, l'Éternel parle. Dis seulement une parole et je serai guéri. L'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel. Ah, péché originel. Oui, mais il y a aussi un appel originel. Vous allez vivre dans quoi? Je ne dis pas que l'autre est faux, hein, parce que sinon je vais recevoir les pierres. Mais maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur. Tu sais, Tolstoï, Léon Tolstoï, guerre et paix, hein, il a dit ceci, le seul sens de la vie est de servir l'humanité. C'était un homme avec une longue barbe, donc il fallait l'écouter. Le seul sens de la vie est de servir l'humanité. Et Dieu nous donne ce privilège. Chacun de nous est né avec une vocation de servir l'autre. On peut, bien sûr, faire fausse route, mais quand même, ça reste notre appel fondamental. Et il va plus loin. Il va plus loin. Parce qu'il dit... Voilà, je t'établis, verset 6, hein, pour relever les gens. Bon, ça, c'est surtout à l'intérieur, la famille. On peut toujours être là pour relever l'autre, surtout ceux qui sont tout près de nous, nos enfants, nos parents, nos amis. Mais ça va plus loin. Et c'est surtout la deuxième partie du verset 6 d'Ésaïe 49. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Wow. Une flamme en moi, échauffe mon cœur, brille en moi, la lumière. T'as un appel fondamental, à être la lumière. C'est magnifique, hein? Et Dieu a toujours eu, avant tout, même avant le péché originel, même avant Adam et Ève et tout le reste, même avant ça, même avant le Big Bang, avant tout ça, qu'est-ce que Dieu a dit? La première parole qui guérit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu a toujours eu une vocation de lumière. Et que ça soit un soleil qui brille, ça c'est la lumière matérielle. Ou que ça soit une lumière spirituelle. Que ce soit une lumière de vérité, une lumière de bonté, une lumière de justice. Voilà. C'est toujours l'idée de Dieu. D'avoir des êtres qui illuminent, qui brillent. Et donc, c'est pas trop stupide non plus, parce que dans le premier évangile, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il y a aussi une parole. Et cette parole qui guérit, cette parole devient chair. Et Jean, il dit, dans Jean 4, hein, pardon, Jean chapitre 1, verset 4, pardon, verset 4, il parle de cette parole. Au commencement était la parole. Et on dit, oh, mais la parole est devenue lumière. Mais il dit plus loin, au verset 6, il y eut un homme envoyé par Dieu. Il vint comme témoin. Oh, pardon, verset 4. En elle, dans la parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ça, c'est une traduction. On ne l'ont pas vaincu. Je pense qu'il y a deux choses dans la vie. Quelquefois, la vérité, la bonté est accueillie. Et quelquefois, c'est combattu. Mais ça ne sera pas vaincu. Et dans votre vie, si vous essayez de briller, quelquefois, ça va rayonner sur les gens. Et quelquefois, ça sera combattu. Mais ça ne sera jamais vaincu. Et Jésus est le modèle de lumière. Il a dit, hein, c'est magnifique l'évangile, parce que l'évangile de Jean, Jésus dit, Jésus, il guérit un aveugle. Et après, un aveugle de naissance. Hein, toutes ces choses originelles. Et les disciples, ils disaient, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Tu sais, on est toujours centré sur le péché. On est toujours centré. Qui a péché pour qu'il soit puni comme ça? Mais Dieu ne pense pas comme ça. Parce que Dieu pensait en termes de vocation. Et il a dit, c'est ni ses parents, ni lui, mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. L'œuvre de Dieu, une vocation. Et après, il guérit cet homme. Un miracle incroyable, fantastique. Un aveugle qui était depuis sa naissance aveugle. Il est guéri par Jésus-Christ. Et après, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Lumière, lumière. Il nous guérit et il fait de nous, il met sa lumière en nous pour que nous soyons lumière. C'est votre première vocation. Alléluia. Moi, j'aime bien ça. Quand je vois des gens, je vois même les gens qui sont les plus noirs quelquefois. Je vois peut-être une lumière en préparation, je ne sais pas, mais bon, c'est dur quelquefois. Et qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Parce qu'il y a une bataille après. C'est bien beau quand Dieu vous parle, il dit vous êtes aimé, vous êtes la lumière et tout ça. Mais après, il y a une bataille de paroles. Qu'est-ce que je vais écouter? Je vais écouter la parole qui me guérit ou je vais écouter d'autres paroles? Et est-ce que je vais écouter moi-même? Parce que l'homme, on a toujours une tendance d'être négatif, surtout à nous-mêmes. On est vraiment le plus grand bourreau de ta vie et toi-même, quelquefois. Et donc là, Dieu, il fait toutes ses promesses, lumière, lumière, lumière. Et après, verset 4, on revient à Ésaïe 49, Dieu dit, mais moi j'ai dit, ah là, ça devient dangereux, hein. Mais moi j'ai dit, voilà, vous allez vous trouver, oh, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Voilà. Et là, je commence à avoir des cheveux gris, hein, soixantaine, tout ça. Est-ce qu'on récolte les regrets? J'aurais dû, j'aurais pu, et voilà, les échecs sont là, grands. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que... C'est en vain que je vais tout ça. Et surtout quand on est serviteur de Dieu, quelquefois, oh, à quoi bon faire tout ça? C'est en vain. Oh, à quoi bon parler de Jésus dans ce monde postmoderne? Oui. C'est en vain. Et même avec les enfants, quelquefois, on dit, oh, avec, après tout ça, il ne me téléphone même pas. Oh, c'est en vain. Et un tas de choses. Je me suis fatigué pour rien. Pour le vide et la vanité. Les toits V. Hein? Vanité, en vain, vide, vanité. Consumer ma force. Mais bon, ça c'est une perspective. Mais c'est très réel. Et c'est ce qui est dit ici. Et après... Nous pouvons dire aussi, verset 14, il dit ici, si on disait, ça veut dire un nom d'Israël, mais ça peut être moi encore. L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Oh, on ne dit jamais ça. Hein? On le pense souvent, on dit, mais quand même, cette huile qui tombe sur ma tête là, cette maladie, cette souffrance... Ce deuil, les choses, et c'est horrible quelquefois ce qui arrive dans nos vies. Moi, on parle à chacun, hein, on trouve toujours dans chaque vie des souffrances, des misères. Tout le monde souffre. C'est terrible. Et après Dieu, on parle de « je suis une créature merveilleuse hein, ». Oh, mais bon, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Ça, c'est une parole. Et après Dieu parle encore. Dieu parle encore et il dit « une femme ». Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Ah, c'est une belle question. Ça. Je ne sais pas si je vous pose. Est-ce qu'une femme peut oublier? Une femme peut oublier son nourrisson? Je suis sûr que dans l'histoire du monde, il y a les femmes, même si c'est rare, qui ont oublié leur nourrisson. Qui ne voulaient pas, et moi j'ai pire que ça, hein. Je ne vais pas vous dire toutes mes horreurs d'Afrique hein, que j'ai entendues, mais des choses terribles. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Et après Dieu, il parle encore. Il dit, même si c'est possible, même quand elle l'oublierait. Alors là, il parle déjà d'une chose exceptionnelle. Que même dans les limites de l'inhumanité, ça serait même possible de briser cette alliance naturelle. Il dit, mais même si ça est possible, qu'une femme, qu'une mère nie ce lien qu'elle a avec l'enfant, même si ça c'est possible, quand elle l'oublierait, ou même on peut dire quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Et ça, c'est la parole que j'ai eue ce matin. Quelquefois, je n'ai qu'une parole quand je prêche. C'est la parole que j'ai. Si ce matin, tu es ici, et je te tutoie au nom de Jésus, c'est que Dieu veut te dire ce matin, moi, je ne t'oublierai pas. Parce qu'il regarde toujours la lumière potentielle en toi. Il regarde toujours cet appel fondamental à une vocation. Tu as une valeur immense, chaque vie, chaque bébé qui naît, qui soit réfugié, qui soit... Mais dans cette vie, ce premier cri, il n'y a pas que l'état de péché. Il y a l'espérance d'une vocation, de servir, d'être une lumière, d'être une créature merveilleuse, indispensable à l'humanité. Amen. Et pourquoi Dieu peut dire ça? Allez Robert, c'est trop bon marché. Je vais vous dire, c'est pas de tout bon marché. Parce que, il continue. Moi je ne t'oublierai pas, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. Et donc Ésaïe a écrit ça 700 ans avant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était prophète. Parce qu'il y avait un jour où Dieu lui-même, au lieu de juste rester éloigné, Il a dit, je vais me manifester en chair et en sang. Il s'est limité, bien sûr. Il y a tout le mystère de la Trinité là-dedans. Mais il est venu pour être percé là. Tac, tac. Et d'un côté là, où il y avait l'ultime rédemption qui a coûté cher. Et ça, c'est juste les souffrances physiques. Hein. Je pense que Christ sur la croix, il a enduré la séparation, une sorte de un anéantissement moral et spirituel aussi. Et ça, c'était beaucoup plus dur que les douleurs physiques. Mais là, il a fait ça parce qu'il avait ton nom gravé sur ses paumes. Et quelquefois, je ne sais pas, en Angleterre, quand j'étais petite, les gens m'emmenaient au cirque et on disait, on peut lire les mains. Hein. Tiens, je ne sais pas si vous avez jamais... Ah, la ligne de la vie, la ligne de l'amour. Tiens. Oh, c'est... Alors là, je ne veux pas vous enduire dans l'erreur ce matin, chers frères et sœurs, mais moi, je vous invite à lire la main, mais la main de Jésus, qui dit, je t'aime. Ton nom est gravé là. Et quand tu lis, c'est une grande ligne d'amour. Mais l'amour qui paye le prix, parce qu'il y a un trou, il y a une blessure, il y a quelque chose qui a coûté. Dieu a dit, moi je vais prendre ce péché originel, ce premier meurtre entre Cain et Abel, toutes ces maladies, tout cet être. Ouais, j'étais... fondamentalement fichu, pour ne pas dire un autre mot. Mais je suis aussi fondamentalement sauvé en Jésus-Christ, pour être une lumière du monde. Et il a payé le prix pour ça. Et après toutes ces blessures, les anges lisent les paumes de Jésus dans le ciel. En Apocalypse, vous lisez Apocalypse, je pense, 6, chapitre 6, on voit au 5, 5, je pense, 5 ou 6. Voilà. Il dit que il y a toujours ces blessures, mais ils sont transfigurés. L'agneau immolé, transfiguré en emblème de louange et d'adoration et de victoire, où toutes les tribus de la terre sont là, rachetées, sauvées, embellies. Et donc, même si ça a coûté cher dans la résurrection et par l'Esprit, par le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus. Il y avait la victoire. Et il y a la victoire de votre vocation là-dedans aussi. Il y a la victoire aussi de votre souffrance. Parce qu'on souffre. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est vrai, on est pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. C'est vrai. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là en se flagellant midi, matin, soir et tous les autres moments de la vie. À un moment donné, il faut entrer aussi dans cette vocation pour être une lumière des nations. Et il y a deux mouvements après, dans ce passage d'Ésaïe. Il y a un mouvement de restauration, et on peut voir ça en verset 17, il dit « Tes fils accourent, ceux qui t'avaient réduit en décombres et en désert sortiront du milieu de toi. » Et donc il y a un retour des fils, une sorte de fécondité. Et après, il y a un éloignement de tout ce qui t'avait réduit en décombre. Hein? Et donc, quelquefois, il faut avoir cette perspective d'éloigner le péché pour accueillir une vocation. Et je termine en lisant un passage bien connu en Jean 10. Le bon berger, je pense que quelqu'un a prié le bon berger ce matin. Et je suis la lumière, je suis le bon berger. Mais il y a un bon berger qui dit, voilà, je te donne une vocation fondamentale. Mais il y a aussi un voleur dans cette histoire. Il y a aussi un voleur. Et Jésus, en parlant, en utilisant cette idée de bon berger, il dit verset 10, hein, 10, Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. » Et donc on voit, il y a des voleurs dans ce monde. Il y a le voleur, le mal, le voleur. Et là, il veut tuer, il veut voler, il veut détruire. Et donc, on est en combat, mais surtout avec des paroles. Le voleur vient avec des paroles qui nous rend malades. Mais le bon berger, lui, il vient avec une parole qui nous guérit. Et si le voleur vient pour tuer, voler, détruire, il dit, mais moi, il y a un autre mouvement pour l'accueillir. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il dit seulement une parole, je serai guéri. Et d'avoir une vie. Tu sais, il y a la vie bios, biologie. Et il y a souché, c'est la psychologie. Mais il y a aussi le zoé. Et ça, c'est cette vie de Jésus en nous, cette vie divine. Et donc, le bios, je l'ai. Peut-être avec beaucoup de péchés. Merci Seigneur. Mon psychologie, avec mon désir de dominer les autres. Merci. Mais j'ai aussi le zoé. Et c'est ça qui peut me mener. C'est ça qui peut diriger ma vie. C'est cette lumière en moi. La vie de Christ en moi. Le zoé qui me donne une vie abondante. Un zoé périssos en grec. Ça veut dire une vie qui déborde. Qui déborde, qui déborde. Vie et lumière. Voilà votre vocation. De vivre une vie abondante. Et donc, demain matin, quand vous vous levez avec la brosse à dents, vous pouvez dire... Oh, aie pitié de moi, Seigneur, pauvre pécheur que je suis. Peut-être c'est mérité et je vous encourage, hein, mais pas de rester trop longtemps. Et si vous avez le courage, parce que je vous ai quand même dit, j'espère, une parole qui guérit, vous pouvez dire aussi, je suis une créature merveilleuse, indispensable à l'humanité, et que votre petite lumière brille cette semaine dans le monde. Amen.